Plaisance, 19h. Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
De 19h sur Radio Présence, bienvenue, bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct pour cette première émission de la nouvelle saison de Soif d'autre chose, une émission jeune présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. Et je suis pas tout seul ce soir pour vous faire vivre cette grande première. Je suis en compagnie de Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour.
Avec Mathéo aussi. Bonjour Mathéo.
Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver.
Et oui, grande nouveauté sur Radio Présence, c'est l'émission Jeunes, sauf d'autre chose, qui reprend avec des chroniques, des interviews et plein de bonnes choses qu'on vous fait partager dans quelques minutes. Et comme je vous le disais, une première aujourd'hui où voilà, nous allons faire déjà un petit tour de table pour commencer, pour se présenter. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Enzo.
Alors qui êtes-vous ?
Alors je suis un jeune pro de Toulouse qui a été gentiment invité à animer une chronique dans cette émission.
Alors votre chronique, ta chronique Louis-Marie, où on va se tutoyer entre jeunes, une chronique qui va porter sur quoi ?
Alors ma chronique portera sur les saints qu'on fête tout au long de l'année liturgique, et donc cette semaine on parlera de Sainte Thérèse d'Avila.
Voilà, donc une chronique que vous pourrez retrouver dans quelques minutes à peu près, hein, 19h43 si les timings sont bons. Et aussi Mathéo, bonjour Mathéo.
Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver hein, pour cette nouvelle saison.
Voilà, alors Mathéo, vas-y présente-toi, qui es-tu ?
Et du coup Mathéo, 23 ans, je suis étudiant, j'ai eu l'honneur d'être étudiant en école d'ingénieur à l'INSA Toulouse. Et cette année je suis en sociologie, donc parcours un peu original, mais qui m'offre on va dire une pluralité de points de vue.
Bon, eh bien c'est super. Merci à vous deux d'être là avec moi ce soir pour cette grande première de Soif d'autre chose. Alors Mathéo, on va te retrouver aussi dans quelques minutes, hein, aux alentours de 19h10 pour le grand entretien avec notre invité du jour. Mais dans quelques secondes maintenant, nous allons donc écouter notre première chronique. Elle s'appelle Emma Bernard Guérin, l'étudiante en journalisme, et donc elle nous a proposé de faire des chroniques pour cette émission de Soif d'autre chose, et on la remercie chaleureusement. Une chronique aujourd'hui qui va parler de politique et d'engagement. Bonsoir Emma.
Un sujet bien d'actualité ces temps-ci. Regardons de plus près la politique française. Parfois, ça donne le vertige. On voit des querelles, des ambitions personnelles, des disputes qui semblent sans fin. On pourrait croire que le pays n'existe que pour nourrir l'ego de quelques-uns. Et pourtant, la politique au sens noble du terme reste l'un des plus beaux engagements qu'on puisse observer. Et oui, certains hommes, certaines femmes politiques se perdent dans leurs ambitions. Oui, certains privilégient leur carrière à l'intérêt de tous, mais malgré tout, la politique peut être belle. Elle peut rassembler, créer, faire avancer, elle peut servir le peuple. Aimer la France aujourd'hui, c'est regarder la politique avec lucidité. Ce n'est pas fermer les yeux sur les scandales ou les petites combines, mais c'est bel et bien reconnaître que la politique est belle quand elle porte des projets, des idées et des valeurs. Victor Hugo d'ailleurs lui-même disait « La politique, quand elle est honnête, est un des plus grands moyens de rendre les hommes meilleurs. » Et c'est bien vrai. Même derrière les disputes et les postures, il y a la vie réelle du pays qui continue. Les écoles qui ouvrent, les routes qui se construisent, les droits qui se défendent, les crises qui se gèrent. La politique est belle quand elle s'oublie pour servir. Elle est humaine dans ses failles et majestueuse dans ses accomplissements. Aimer la France, c'est donc apprendre à voir au-delà des petites querelles. C'est reconnaître ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui pensent au long terme, ceux qui essaient de dépasser les divisions. Chaque débat, chaque vote, chaque décision, même imparfaite, participe à la construction de notre pays. Et c'est pour ça que la politique mérite encore notre attention et notre amour. Charles de Gaulle l'a dit, la France est plus grande que ses hommes. Et c'est vrai, la France ce n'est pas seulement ceux qui veulent briller dans les médias. La France, c'est le souffle de ceux qui s'engagent avec sincérité. Le courage de ceux qui défendent des idées, la fraternité que nous cultivons tous ensemble. Alors que faire, nous, citoyens ? Comment rester attentifs sans nous décourager ? Comment espérer sans fermer les yeux ? Comment aimer ce pays malgré tout ce que l'on voit à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux ? Eh bien, aimer la France, c'est regarder sa politique avec les yeux de l'histoire, comprendre ses contradictions et croire en sa capacité à se relever, à se rassembler et à inventer l'avenir, tous ensemble. Alors n'hésitons pas, nous, en tant que chrétiens, à défendre nos convictions, les faire entendre, nous engager, non pas pour notre gloire personnelle, mais parce que la France est la fille aînée de l'Église. Ne l'oublions pas, ne nous décourageons pas. Et si finalement, la vraie question n'était pas de savoir qui mérite de diriger, mais plutôt, qu'est-ce qui, dans notre engagement et notre vigilance, peut transformer les ambitions personnelles en grandeur collective ?
Présence.
Un grand merci à Emma Bernard Guérin. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Présence, mais tout de suite Calogero avec Je joue de la musique.
Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit d'un peu partout, c'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique,
sur Radio Présence. Tout de suite, c'est le moment du grand entretien présenté par Mathéo, et vous l'entendez derrière moi, Street Fighter du rétro gaming, c'est l'objet de votre entretien, Mathéo.
Oui, bonsoir, c'est un plaisir d'avoir notre invité ce soir, Cédric. Je vais vous laisser d'abord vous présenter rapidement, expliquer un peu votre parcours, et vous êtes en fait le président d'un club de jeux vidéo. Enfin, vous allez nous expliquer un peu votre démarche, votre projet, et ce qui vous a amené dans votre parcours à vous orienter vers ce genre de projet.
Alors bonsoir à tous, je m'appelle Cédric Beuchet, donc je travaille à l'université Toulouse Capitole à TSM Research, qui est un laboratoire de sciences de gestion.
Ouais.
Je suis administratif au sein de ce laboratoire et à titre privé, j'ai pour passion depuis quelques décennies maintenant les jeux vidéo, parce que j'ai grandi avec dans les années 80, donc certes je suis plus étudiant, mais je vis encore à l'université et je travaille à l'université, donc je côtoie cette population régulièrement. Et en fait, j'avais envie de présenter, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête de créer un club de jeux vidéo, de rétro gaming, donc de jeux vidéo anciens, parce que le jeu vidéo aujourd'hui a plusieurs décennies d'histoire. Et donc, dans le club, à la fois, on présente, on va dire, chaque réunion, un petit peu, chaque séance se divise en deux temps, hein, un temps consacré à l'histoire du média, qui est un peu qualifié du 10e art, enfin, qui est qualifié comme le 10e art. Mmh. Et puis, en fait, un temps de jeu, parce que, bah, il faut à la fois mêler l'utile et l'agréable. Mmh. Et donc, bah, ces réunions sont mensuelles au sein du T-Capital à la BU de l'Arsenal.
Très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats à l'introduction de chaque nouvel art. La photographie, le cinéma, aujourd'hui le jeu vidéo, on se pose la question, est-ce que c'est un art? Il y a beaucoup de débats, mais bon, c'est clair que ça représente en tout cas un média, de façon évidente, qui transmet, on va dire, une information, qui fait passer un mode de pensée et une culture. Donc c'est un peu ça aussi que vous voulez faire passer peut-être, c'est comment le jeu vidéo est-il un média pour faire passer du message, peut-être dans le contexte, effectivement, de l'évangile, de l'évangélisation, de la mission. Je ne sais pas si vous avez un point de vue, une approche par rapport à ça.
Alors, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais vous l'avez très bien dit, Mathéo, c'est un média de transmission. Parce que, par exemple, moi, je suis papa de deux jeunes enfants. Mes enfants ont aujourd'hui 10 et 8 ans. Et donc, on est confronté à la problématique écran en tant que parent, à la problématique, de l'addiction aux écrans, à la problématique des jeux, comment jouer, comment cadrer, comment réguler, comment vivre avec et comment partager aussi, comment faire passer des messages. Et ce qui est intéressant, c'est que bah aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un ouvrage que j'ai repéré en fait à la librairie du monastère de Tournailles, où j'étais en retraite, qui était un ouvrage du père Bertrand Monnier qui s'appelle en fait les 10 commandements du jeu vidéo et qui est un peu une sorte de manuel de survie qui dit dans un premier temps bah voilà le jeu vidéo pour certains il y a on va dire cette approche très binaire du jeu où vous avez une tuerie en masse, c'est la faute au jeu. Des fois on retrouve ça ou ces clichés là dans la culture nord-américaine souvent
effectivement oui.
Et parfois même dans d'autres lieux en Europe, mais c'est un petit peu réducteur. Et je trouve que l'idée en fait de mon club aussi, avant de parler du jeu vidéo comme terrain de mission, c'est de montrer que bah voilà, c'est un art à part entière, que c'est un art surtout avec les plus jeunes et moi qui suis parent qui doit s'encadrer. Donc il faut poser les limites, hein, c'est comme tout. Et pour poser des limites, il faut aussi s'intéresser à la question en tant que parent. Et bah c'est un petit peu alors déjà vis-à-vis des étudiants qui seront probablement des futurs parents dans quelques années, de poser quelques bases et d'avoir aussi en mode, ce que je disais tout à l'heure, utile et agréable, des briques pour réfléchir à comment je vais vivre avec les jeux vidéo, moi en tant que parent plus tard, comment partager aussi cette passion-là, puisque moi je la partage avec mes enfants aujourd'hui. Alors certes sur des jeux vidéo anciens, sur des consoles qui ont quelques décennies aujourd'hui, mais ça c'est mon centre d'intérêt. Mais je sais qu'aujourd'hui vous avez la Switch 2, la PS5, vous avez plein de machines qui vous proposent des jeux d'une beauté magnifique, hein, avec des puissances de calcul, des moyens, des studios qui sont derrière chaque création, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un art, mais c'est pas un art individuel, c'est un art en équipe. Qui vous proposent des créations d'une beauté, ne serait-ce que les Assassin's Creed ou d'autres titres, hein, alors même si ces jeux sont un petit peu éloignés parfois de la vision chrétienne, mais en termes de beauté, quand on admire un tableau par exemple, on peut ne pas aimer ce qu'il représente, mais aimer le travail qui est produit.
Il y a une performance artistique, hein, vraiment, on peut parler de performance effectivement quand on voit certains jeux vidéo. Mais du coup, si je vous suis bien, vous, c'est plutôt le rétro. Le jeu vidéo rétro, est-ce que vous sentez une différence, un paradigme différent entre le jeu vidéo rétro et le jeu vidéo contemporain, moderne? Est-ce que vous trouvez plus intéressant pour certaines raisons le jeu vidéo rétro?
Alors, déjà, le jeu vidéo rétro se vivait de manière solitaire. Alors, solitaire et entre amis, c'est-à-dire on était réunis à plusieurs personnes physiques dans la même pièce autour d'une machine. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez les jeux connectés, par exemple ce qu'on appelle les M-Porg, les jeux multijoueurs en ligne, les jeux multijoueurs massifs en ligne. Et en fait, Internet a en fait décentralisé et étalé les jeux. Et vous avez plein de jeux, on peut citer World of Warcraft, mais par exemple Call of Duty, vous avez des jeux comme Fortnite qui se jouent de manière en ligne. Et des fois, alors c'est marrant parce que les personnes sont solitaires derrière leur écran, mais n'ont jamais été aussi connectées à d'autres. Et c'est peut-être là que nous, en tant que chrétiens, on a un rôle à jouer pour la mission.
Très bien, oui, c'est une vision vraiment intéressante parce que c'est pas très répandu ce genre de discours. C'est vrai que le jeu vidéo, on a tendance à l'opposer peut-être aux valeurs chrétiennes puisque c'est vu comme quelque chose de moderne, de nouveau. Donc il va un peu bousculer les codes, faire bouger les lignes. Donc c'est vrai quand on est ancré dans une tradition comme la tradition chrétienne, on peut être un peu dubitatif. Pour peut-être avoir peur même hein, de ces nouvelles arrivées, on va dire, dans le monde culturel. Et c'est vrai que du coup, c'est comme vous le disiez, c'est intéressant de s'en emparer, de connaître, hein, parce que le savoir, la connaissance, c'est le début de tout pour pouvoir accompagner les jeunes, encadrer, mieux comprendre la direction vers laquelle on se dirige. Donc c'est vraiment très intéressant comme démarche, que ce soit avec vos enfants ou avec votre club, on le comprend tout à fait. Et du coup, par rapport au livre dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, dans les 10 commandements, quelles sont les idées fortes qui ressortent, si vous pouvez en citer un ou deux, par exemple, bon, pour qu'on puisse s'y situer?
Déjà, le Père Monnier, quand il parle du jeu vidéo, il l'inscrit dans un média du 21e siècle, et il l'inscrit comme média. Donc, comme je disais tout à l'heure, le jeu, c'est un média de transmission, et avec lequel on transmet, nous, de parents vers enfants, parce qu'on sait souvent que les jeux vidéo, c'est un objet de conflit entre parents et enfants en matière d'éducation. Bon, les jeux vidéo ne sont qu'une activité parmi ce que font les enfants derrière les écrans. On peut citer l'Internet, les réseaux sociaux, l'écoute des plateformes musicales, etc. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le pourcentage en temps d'écran passé par enfant à jouer aux jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas que cette seule activité-là. Bien sûr. Il y a malheureusement d'autres activités qui sont plus tristes et qui font que malheureusement il y a des départs des fois un peu tragiques.
Effectivement.
Donc c'est important aussi de le dire, mais les jeux, c'est aussi un moment, déjà il y a le mot jeu vidéo. Le jeu, c'est un amusement, c'est un temps qui permet de s'évader du réel, mais c'est un temps qui ne doit pas et c'est là où on va aller vers l'addiction, devenir une fuite du réel. C'est juste un temps d'évasion pour revenir au réel ultérieurement. C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, que le temps de jeu doit être cadré.
Oui.
Et c'est aussi aux parents, alors après de je pense d'instruire leurs enfants jeunes, parce que la pratique du jeu vidéo que les enfants auront plus tard, et nos étudiants qui nous écoutent ici et maintenant ont été des enfants autrefois, et s'ils n'ont pas été peut-être suffisamment bordés, cadrés, se retrouvent avec des temps de jeu importants qui peuvent nuire à leurs études et peut-être à leur future insertion professionnelle. Donc c'est vrai que les parents ont cette c'est la responsabilité d'être parent, tout simplement, dans plein de domaines et dans le jeu vidéo, mais c'est comme le jeu en général, quelque part, parce que le jeu vidéo, c'est l'écran, bien sûr, mais le jeu, c'est aussi l'amusement. Et puis un enfant, finalement, il aura toujours plus envie de s'amuser que de travailler ou de faire ses devoirs. C'est naturel. Et un étudiant, c'est pareil. Donc d'emblée, un étudiant ou une étudiante, hein, d'ailleurs, peu importe, parce qu'il faut pas avoir une représentation sexiste du jeu. Je pense qu'il y a autant de gamers ou de gameuses qui sont présents dans le jeu. Et donc, il faut savoir border pour rester dans l'évasion et pas dans l'échappement, la fuite dans un monde virtuel, parce que de toute façon, le retour au réel sera toujours plus dur si le temps de jeu est long. Et c'est comme avec les enfants, plus vous jouez, plus l'enfant aura envie de jouer, in fine. Donc, je veux pas dire que le joueur est un enfant. Et je ne veux pas dire cela, et je le dis bien devant vous à l'antenne, parce que aujourd'hui, le jeu vidéo a atteint un tel niveau de maturité que dans les évolutions, dans certains types de jeux, il faut vraiment être un adulte pour jouer. Pas de jeu. Il y a effectivement des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes. Ça, il y a des jeux à tranche d'âge. Mais le jeu est vraiment, on va dire, pour moi, un média de transmission dans un premier temps, un moment de partage avec son enfant ou ses enfants. et d'ailleurs quel que soit le sexe, et ensuite un moment où peut-être il faut investir ce média-là pour nous en tant que chrétiens et qu'Église catholique, parce que la question que vous posiez tout à l'heure, c'était celle du progrès.
Oui.
Et
oui.
En fait, plus derrière, moi j'aime beaucoup dire à un moment quand Jésus-Christ était dans l'Empire romain, ouais. Pour moi c'était un grand provocateur. Il bousculait les codes.
Absolument.
Il a bousculé la foi. Et je trouve en fait que finalement chaque grande étape, c'est comme l'imprimerie, hein. Quand elle est arrivée au XVIe siècle, hein, Gutenberg, il a fait peur. Parce que c'était la diffusion des savoirs et l'Église avait aussi peur de perdre sa position. Mais finalement, accompagner une évolution technique, on l'intègre et finalement, elle devient elle-même un instrument d'évangélisation. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de travailler avec le progrès et de mixer tradition et modernité.
Mmh. Très intéressant et pas évident parce qu'on sait que la technologie peut nous échapper. On a peut-être des exemples, on a des critiques typiquement des sociologues, hein, comme Marshall McLuhan qui a fait une critique du type en fait l'information c'est le média en lui-même, c'est le support du média en fait, comment dire, et en lui-même idéologique, il peut avoir des questionnements de ce genre qui peuvent se poser. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Après, pour mieux cadrer peut-être, de quel type de jeu on parle quand dans vos passions, quels sont les types, les genres de jeux, parce qu'on sait qu'il y a les jeux de course, les jeux de combat, les jeux de stratégie. Pour mieux cadrer vos jeux rétro.
Alors moi, à titre personnel, je suis fan de jeux de plateforme. Donc hein, c'est Mario, Sonic, le petit bonhomme qui court, qui saute, voilà. En fait, moi quand je suis joueur, j'ai besoin de savoir, de prendre en main un jeu immédiatement. Je ne dois pas passer plus de 2 à 3 minutes à comprendre comment un jeu fonctionne. Après, vous avez des jeux qui sont nettement plus complexes, hein, des jeux de gestion, ouais. Des jeux à guilde, qui sont extrêmement comment dire, où il faut acquérir de l'expérience pour comment dire profiter pleinement du jeu. Alors moi c'est pas cette idée là. Et puis c'est vrai que dans un club de jeux vidéo vous avez des séances de 2 heures ou même d'une heure et demie, vous avez pas le temps de permettre la prise en main à des jeux longues.
Ouais.
Et donc en fait finalement des jeux de plateforme, des jeux de course automobile, bien qu'il y ait des jeux de course automobile très complexes, mais les jeux de rétro de course automobile d'autrefois,
arcade.
Des jeux d'arcade, vous aviez un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, la petite manette pour diriger et puis on était bon quoi. C'est-à-dire que vous mettiez votre pièce et feu Chatterton, c'est parti quoi. Alors que maintenant, bon, aujourd'hui vous pouvez customiser votre voiture, la régler au boulon près avec tel chevaux, tel pot, la peindre de telle manière, vous pouvez la personnaliser. Enfin, en fait, il y a presque dans la complexification du jeu vidéo aujourd'hui et dans l'introduction du personnage dans le jeu s'il devient un média support, cette volonté, on va dire, de comment dire, que le jeu devienne un prolongement de vous et donc vous êtes inclus dans le jeu. Alors que dans les jeux plus anciens, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'avait pas peut-être aussi cette complexité-là ou cette volonté-là aussi. Hein. Ça, il faut pas oublier que quand on parle de médias de transmission, de médias de mission, c'est avant tout un média. Et quand les éditeurs font des jeux, c'est avant tout un produit.
Oui.
C'est avant tout un produit qui doit faire du bénéfice. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi parfois une politique qui sous-tend le média. Donc, il faut aussi avoir un petit peu ce recul-là. Et effectivement, vu le florilège constant des titres qui sortent, alors on n'est pas comme dans la rentrée littéraire pour les jeux vidéo, mais on a quand même des productions qui sont annoncées à cadence soutenue. Alors, bien évidemment, on peut pas être passionné de tous les sujets tout le temps pour suivre l'actualité en continu et de ce qui sort tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose, est prégnant chez nos adolescents, nos enfants et les étudiants qui nous écoutent. Et in fine, si on veut rester maître de quelque chose, il faut au moins s'intéresser à cette chose.
Se pencher effectivement sur le sujet. Et pour parler des jeux vidéo, en rapport avec la mission, est-ce que vous avez des exemples de jeux vidéo qui rentreraient, on va dire, dans un paradigme chrétien, qui seraient porteurs de certaines valeurs, de certains principes? Est-ce que ça existe? C'est la question qu'on peut se poser.
Alors, en fait, il y a deux manières de répondre à votre question. La première, ça pourrait être de construire vraiment des jeux à vocation, je vais pas dire religieuse, mais spirituelle, qui questionnent la morale, des grandes questions de la Bible, le bien, le mal, et donc d'emblée proposer des des jeux qui soulèvent ces questions de manière, parce qu'en fait alors je vais m'éloigner un petit peu, on va dire, de la spiritualité et de la religion, mais si on prend la Bible comme un mythe, la grande, et là je m'excuse auprès de nos auditeurs qui peuvent un petit peu avoir les oreilles qui frisent, mais comment dire, les jeux vidéo actuels sont sous-tendus par des grands archétypes. Ces grands archétypes, quels sont-ils ? Eh ben, ce sont les mythologies et les grands textes qui fondent notre civilisation. Parmi ces grands textes, il y a la Bible. Et donc, de facto, les éditeurs qui conçoivent aujourd'hui les jeux, pour faire adopter les jeux que eux conçoivent, vont s'appuyer sur ces archétypes. Oui. Mais c'est les mêmes schémas qui sont présents dans la littérature, dans le cinéma, qu'on va retrouver dans l'heroic fantasy notamment. Et en fait, dans le jeu, comment dire, pour répondre à votre question, bah par exemple, on pourrait imaginer, je sais pas moi, on prend Minecraft,
oui.
Minecraft qui est un jeu de construction, et donc d'imaginer, bah voilà, je bâtis la maison la plus solide pour dire, bah voilà, ma maison, elle est bâtie sur le roc. Donc on peut imaginer plein de parallèles, voilà. Si vous voulez, il y a plein de versets bibliques qui pourraient faire référence à des jeux moderne et en plus un jeu sur internet, là je sors un petit peu du rétro, mais des jeux contemporains qui font appel à des versets bibliques sur lesquels on peut s'appuyer. Après, moi je pense que par exemple ce qui est intéressant, c'est déjà imaginer dans des jeux à guildes, de créer des groupes de joueurs avec des joueurs qui partagent un ensemble de valeurs communes. Et dans chaque guilde, il y a souvent un leader. Alors le terme est un peu galvaudé, enfin mal choisi. Ouais. On va dire un référent. Je pense que c'est peut-être le terme le plus idoine, pas un leader, mais peut-être que dans certains jeux ça s'appelle ainsi. Mais dans tous les cas, un référent. Et on va dire, bon voilà, ce référent est quelqu'un qui anime avec bienveillance, résilience, des joueurs qui partagent les mêmes valeurs et qui vont se retrouver et former. Et quelque part, ça se fait naturellement. Je pense parce que souvent dans les jeux, vous avez des services de messagerie instantanée.
Oui.
Et puis en fait, bah, les gens vont commencer à dialoguer entre eux. On peut citer les serveurs Discord, hein, par exemple, qui sont un grand support de messagerie instantanée pour les jeux. Et là, comment dire, bah, les joueurs vont se retrouver naturellement, se fédérer, créer des guildes dans des jeux. Et puis, je pense que bah voilà, c'est déjà un premier aspect. Après, un deuxième aspect, par exemple, souvent les jeux sont des passions partagées. Donc, moi, j'ai, on va dire, quelques décennies aujourd'hui, et j'ai grandi avec les jeux vidéo. Ma première console, je l'ai eue en 1987. Mais mes premiers contacts avec les jeux vidéo, c'était sur Amstrad CPC 6124 au début des années 80.
Okay.
Et pour vous donner même un exemple, c'est à titre d'anecdote, je jouais aux jeux vidéo chez ma grand-mère parce que la première télé que j'avais n'avait pas de prise Péritel. C'est une télé noir et blanc,
ouais,
avec
ouais.
des potentiomètres. Et en fait, même ma grand-mère qui avait, son fort caractère, et je lui rends hommage ici sur les ondes, et elle m'entend de là-haut certainement, elle avait compris un truc, c'était le temps de jeu. Et en fait, j'avais un temps de jeu bordé d'une heure chaque semaine, les week-ends, parce que je pouvais jouer chez elle que les week-ends où je me rendais chaque semaine. Et en fait, elle arrivait à un moment, elle disait rien. Elle débranchait la prise et bing, et là vous êtes dans votre super partie en pleine progression.
Ah,
bien évidemment, il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque les consoles.
Ah, en plus.
Et donc là, je dis purée, vous galérez sur ce passage depuis 6 mois, et là par je ne sais quel truchement vous y arrivez d'un coup, et là bim, paf,
tout à refaire.
Courant. Ah là, je vous jure que vous étiez. Et en fait, ça vous apprend aussi à gérer la frustration.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. On va passer la parole à Louis-Marie tout de suite.
Juste rebondir un peu sur le sujet, parce qu'on parlait du coup des jeux vidéo comme terre de terrain. Et moi, j'avais quelque chose qui m'est venu en tête. C'était justement sur les jeux en ligne. Par exemple, vous citez Minecraft, où il y a souvent des serveurs qui sont ouverts, où les gens peuvent se retrouver. Et en fait, souvent, on constate, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est que parfois, des gens vont se regrouper en communauté pour construire des grandes cartes, pour faire des œuvres d'art sur ce jeu-là, et notamment des églises. Et en fait, souvent, on se retrouve à avoir sur des serveurs des groupes comme ça, des groupes d'amis qui se forment autour de ces constructions-là, et justement, d'utiliser le jeu vidéo comme terrain d'évangélisation, en proposant du beau et en partageant leur foi par ce média-là.
Bah, en fait, je pense que tout média, en fait, la mission, elle est multiple, et je crois qu'il faut savoir, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des canaux très très variés, et de savoir utiliser les jeux vidéo ou d'autres canaux. Là, ici, nous sommes sur Radio Présence. Nous utilisons les ondes pour aussi faire partager notre foi, notre spiritualité. Et en fait, il faut ne rien négliger. Mais encore, pour ne rien négliger, un, il faut savoir que ça existe. Deux, s'intéresser à la question. Trois, la limiter dans certains cas. Parce qu'il faut pas oublier que le jeu vidéo peut devenir une addiction, et qu'il faut aussi dire que si addiction il y a aussi des services d'addictologie qui existent même au CHU ici à Toulouse, qui peuvent permettre les parents de gérer ou de mieux appréhender la relation que leur enfant entretient avec leur jeu. Et ça, c'est aussi un message que je veux faire passer. Ne pas hésiter à faire passer, à ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Quand on va dire le joueur, donc ça peut être vous, moi, vit le jeu non plus comme une évasion temporaire, mais comme une fuite continue. Et là, ça veut dire qu'il y a décrochage du réel.
Ouais.
Et quand il y a décrochage du réel, il faut vraiment faire attention. Bon, pour les adolescents, c'est assez classique. C'est enfermement, c'est manque de sommeil, irritabilité forte. Voilà. Et puis bon, de toute façon, après... ne serait-ce que pour gérer, de toute façon, souvent, il y a une box internet par maison. Il est possible aussi de border. Alors après, ça nécessite un petit peu de s'intéresser à la question de comment fonctionne sa box internet, mais de dire tel appareil se connecte sur la box, et donc de telle heure à telle heure. Et donc de limiter techniquement les choses. Ça pénalise pas l'enfant, ça ne pénalise pas en tout cas l'utilisateur. Il connaît ses écrans. C'est pas du contrôle parental encore, c'est juste de l'utilisation de la box. Et si vraiment vous êtes encore plus... prudent vis-à-vis du jeu. Vous avez les logiciels de contrôle parental. C'est quelque chose qui existe. Mais surtout, ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Et donc, je pense aux services d'addiction, ou même, par exemple, moi, je laisserai mes contacts sur Radio Présence, juste pour parler. Alors, je suis pas psychologue, je suis pas payé pour ça, mais je suis passionné, en fait, du rapport qu'on entretient avec la technique, un peu comme Jacques Ellul, qui était aussi un grand philosophe du 20e, qui a étudié très fortement le progrès et quel est le rapport que l'homme entretient à ce progrès. Et aussi le progrès et ses dérives. On pourrait parler d'intelligence artificielle peut-être dans le jeu vidéo, ou de tout un tas de choses que moi je maîtrise pas, parce que je me suis limité à la case rétro gaming par le club, mais de facto je m'intéresse à tout le marché du jeu, mais on va dire l'évolution du média jeu vidéo comme objet, parce que je trouve que c'est à la fois un média incontournable pour l'Église catholique comme terrain de mission, et puis aussi connaître ses évolutions, peut-être pour se prémunir ou éviter de dire attention, là il y a danger, ou peut-être accrocher l'attention des responsables, ou même des étudiants qui nous écoutent. Attention, s'il y a ça, soyez prudents.
C'est ça, c'est le problème des technologies un peu nouvelles, Jacques Ellul en parlait, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas totalement les conséquences. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur chez certains parents, les jeux vidéo, parce que ça peut leur échapper, ils ne connaissent pas, ils n'ont peut-être pas forcément grandi avec, et il y a cette crainte des fois de voir un enfant qui s'isole, comme le phénomène... comme on dit en japonais, hikikomori, des jeunes qui vont peut-être s'enfermer dans leur chambre à jouer toute la journée, etc. Donc c'est vrai que c'est important de dialoguer, je pense déjà, de communiquer, comme vous le faites, comme est votre démarche, et peut-être à plus grande échelle, parce que c'est une question qui aujourd'hui est de plus en plus à une grande échelle. Comme vous parliez tout à l'heure de du rythme de sortie des jeux vidéo qui est toujours plus accéléré. En réalité, on a de plus en plus de jeux vidéo, je crois, qui sont produits. Et donc, c'est vrai qu'aussi, il y a les débats sur les valeurs que vont transmettre ces jeux. Vous parliez d'Assassin's Creed tout à l'heure, que je connais un petit peu. Je crois que, d'un point de vue chrétien, il y a des contentieux. C'est ça, si vous voulez bien m'éclairer là-dessus?
Bah, on va dire, la morale du jeu est un petit peu aux valeurs, on va dire, aux opposés des valeurs morales chrétiennes. Après, le jeu est magnifique, ce sont des vraies œuvres d'art. Mais dans l'absolu, je suis pas là pour condamner ou de dire vous devez jouer à tel ou tel jeu. Ça, c'est de la responsabilité de chacun, et je pense que chacun est suffisamment éclairé et instruit. Et c'est un peu aussi le but de cette émission de ce soir, dire que voilà, le jeu, c'est quelque chose auquel on peut s'intéresser. Et puis suffit par exemple pour les parents qui achètent un jeu vidéo à leur enfant ou à un étudiant qui ne connaîtrait pas un jeu, de taper le titre du jeu vidéo dans YouTube et de regarder une démo du jeu et de voir comment vous rentrez en résonance. Moi, par exemple, je peux donner un exemple. Il y a quelques années, la console Switch de Nintendo est sortie. Et il y avait une adaptation de Mortal Kombat sur ce jeu. Donc un jeu à la Street Fighter 2, mais beaucoup plus sanguinolent et violent.
La bagarre bien
violente. Et en fait, c'était limite gore, on va dire. Ouais, limite d'accord. Un peu sur ce qu'on appelle les fatalités. C'est des coups spéciaux pour achever son partenaire et le mettre KO. Mais c'était vraiment la spécialité du jeu. Et ils ont axé là-dessus.
Très visuel.
De visuel, sanguinolent, à déchirer les tripes de la personne. Donc, quelle valeur, déjà chrétienne, on met face à ça Et je vais être franc avec vous, c'est pourtant j'y ai joué comme majeur. Comme je disais, quelques décennies. La Switch est sortie il y a 8-10 ans, donc j'avais la trentaine, et c'est un jeu qui m'a fait faire des cauchemars.
D'accord.
Ça veut pas dire que un jeu, même en tant qu'adulte, ne vous marque pas. Ce serait une ineptie. C'est pour ça que je veux dire, on a cette chance en tant que chrétien d'avoir le libre arbitre. C'est une des valeurs fondamentales de notre foi. On est libre, et on essaye d'être éclairé, et donc de s'instruire. Et donc, face à n'importe quel jeu, il faut regarder comment on raisonne. Et voilà, et je pense que, en tant qu'étudiant, il appartient, ce sont des jeunes adultes, et puis après tout, c'est aussi un exercice de recherche d'informations en tant qu'étudiant. Et ça, je trouve ça pertinent, parce que, quelque part, ça permet d'exercer l'esprit critique, premièrement. Mais d'un autre côté, en tant que parent, c'est on a tous un téléphone portable, on a tous probablement que ce soit tel système pour pas faire de publicité à l'antenne, une application de vidéo fait par un très grand moteur de recherche qui existe, de taper le nom du jeu dans ce moteur et de regarder ce qui se passe. Après, il y a aussi une classification qui existe, c'est la classification PEGI.
Oui, les PEGI.
Et donc les PEGI, ce sont des classifications d'âge. Alors, elle peut être discutable, bien sûr, comme toute classification, mais elle peut servir de repère.
C'est un indicateur.
C'est comme le Nutri-Score, on va dire. C'est le Nutri-Score, mais version violence des jeux. C'est comment est-ce qu'il y a une application au UK des jeux vidéo? Peut-être que ça pourrait être super intéressant.
Bonne idée.
De proposer à des ingénieurs de l'INSA, par exemple.
au hasard,
je sais pas, je dis rien. De développer ce genre d'outils. Ouais. Et en fait, t'as ma loupe, t'as mon jeu. T'as mon jeu. Et t'as mon jeu, ça veut dire quoi? C'est une application qui serait de dire, comme un Nutri-Score, en fonction des variables que vous avez rentrées, voilà ce que ça vaut, et la grille de lecture, puis de faire, et il existe en plus des bases de données de jeux vidéo sur lesquelles tous les éditeurs mettent, on va dire, un certain nombre de métadonnées qui pourraient s'interfacer, et donc de rapatrier ces mêmes données, de proposer à l'utilisateur un Nutri-Score, une sorte de note de jeu, alors après, est-ce qu'on pourrait imaginer, un Yuka du jeu chrétien, pourquoi pas, parce que ça pourrait exister aussi.
Oui.
On pourrait imaginer ça. Il y a plein de choses. En fait, c'est, le jeu, c'est un média de transmission, c'est un média de mission, et c'est aussi un média de tous les possibles, parce que c'est le numérique.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante. Et puis, on va poursuivre sur la suite de l'émission, en espérant vous retrouver peut-être bientôt. Bonne soirée.
Merci à vous.
Un grand merci à Mathéo et Cédric Baucher pour ce premier grand entretien de Sauf d'autres choses. On se retrouve dans quelques minutes. Avant ça, on écoute Pour tes merveilles, c'est la communauté de l'Emmanuel. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
19h40 sur Radio Présence. Vous êtes toujours à l'écoute de Soif d'autre chose. Et pour continuer la soirée ensemble, nous accueillons Louis-Marie. Louis-Marie, vous allez nous parler du calendrier liturgique.
Oui, tout à fait. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure de l'année les différents saints qui composent notre année liturgique, en commençant dès cette semaine avec Sainte Thérèse d'Avila, que nous fêterons ce mercredi 15 novembre. Donc, Sainte Thérèse d'Avila, c'est une mystique, une réformatrice, une écrivain et surtout une femme qui a su transformer son chaos intérieur en une véritable force spirituelle.
Et alors, pourquoi parler d'elle à des jeunes du 21e siècle?
Parce que Thérèse d'Avila, c'est une vraie guide spirituelle. Elle a traversé le doute, le stress, la fatigue, les attentes des autres, tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui, et elle a trouvé le chemin de la paix intérieure sans jamais fuir la vie. Elle naît en Espagne en 1515, dans une société stricte dominée par les conventions. Très vite, elle rêve d'absolu, d'un amour qui dépasse toutes les limites humaines. À 20 ans, rentre donc au couvent, au Carmel d'Avila, où elle se rend compte que même là, on peut être distrait, dispersé, préoccupé par le regard des autres. D'autant plus qu'à ce moment-là, le Carmel d'Avila était assez corrompu, dans le sens où la règle monastique était vécue d'une manière assez mitigée, et il y avait un vrai besoin de réforme. Et c'est là qu'on commence, et c'est là que commence pour elle, du coup, son grand combat intérieur. Comment trouver Dieu ou simplement un sens profond à sa vie dans un monde qui est bruyant, saturé et exigeant? Ça vous parle sûrement parce que c'est sûrement ce que cherchait Thérèse, c'est sûrement ce qu'on cherche aussi beaucoup, nous tous ici, entre nous. C'est la paix intérieure.
Alors, ce que beaucoup recherchent, la paix intérieure, mais alors, comment donc arrive cette paix intérieure?
Alors, pour Thérèse, ça commence avec un mot, et c'est la prière. Mais pas une prière compliquée ou distante, mais vraiment une prière comme a décrit comme un commerce d'amour. Elle écrit notamment que la prière, ce n'est autre chose qu'un entretien d'amitié avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Et que l'on soit croyant ou non, il y a ici quelque chose de très profond, c'est que Thérèse nous invite à revenir à l'essentiel, à nous recentrer à une présence intérieure, à une forme de silence qui permet de respirer et de se recentrer. Dans un monde saturé de notifications, de comparaisons et de bruits, son message est presque révolutionnaire, prendre le temps de se retrouver seul avec soi-même, d'écouter ce qui vit en nous, et c'est là qu'on découvrira une vraie force. Thérèse parle aussi d'un voyage intérieur qu'elle écrit très bien dans son ouvrage, le château intérieur. Il faut imaginer un château avec 7 pièces, chacune qui a un pas vers son propre cœur, vers ce qu'on appelle la demeure de l'âme. On entre d'abord par les pièces extérieures, pleines de distractions, de peurs, de jugements, puis peu à peu, on avance vers le cœur du château, là où règne la lumière, la paix et la liberté. On pourrait se dire que c'est une métaphore de la croissance personnelle, mais plus on apprend à se connaître, à lâcher ses masques, à s'écouter vraiment, plus on avance vers ce centre intérieur. Et Thérèse dit que c'est là, dans ce silence profond, qu'on trouve sa joie, pas celle des apparences, mais celle d'être simplement soi, aligné et vivant. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant chez elle, c'est sa liberté. Donc il faut savoir que Thérèse d'Avila, c'est une femme du XVIe siècle, qui n'a pas peur de contester, de créer et d'agir. Elle réforme donc son ordre religieux, le Carmel, et elle commence à fonder des couvents un peu partout en Espagne, elle écrit, elle voyage, elle ose dire ce qu'elle pense, tout ça à une époque où les femmes n'avaient quasiment aucune place publique. Sa force, c'est qu'elle agit à partir de son intériorité. Elle ne fuit pas le monde, elle s'y plonge, mais en gardant le cœur ancré. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver un secret à transmettre à notre génération, c'est qu'on peut être dans l'action, dans la vie, dans le mouvement, tout en gardant un espace intérieur de silence et de paix. Thérèse d'Avila, c'est une femme pleine d'humour. Un jour, alors qu'elle tombe à cheval dans la boue, elle dit à Dieu « Seigneur, si c'est ainsi que vous traitez vos amis, il n'est pas étonnant que vous n'en ayez si peu. » C'est une phrase qui fait sourire, mais qui montre bien qu'elle vivait sa foi sans lourdeur, sans culpabilité, avec une simplicité et une joie très humaine. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle d'aujourd'hui? Que la spiritualité, c'est pas fuir le monde, c'est l'habiter autrement. Que la vraie paix ne vient pas d'avoir tout réglé dehors, mais c'est d'abord d'avoir trouvé un centre à l'intérieur. Et que même au milieu des doutes, des galères et des échecs, il existe en nous un espace de lumière qui ne s'éteint jamais. Thérèse d'Avila nous apprend à le chercher, patiemment, humblement et à en vivre chaque jour. C'est donc une chronique sur Sainte Thérèse d'Avila, la femme qui nous rappelle que la plus belle des aventures, c'est celle que l'on vit à l'intérieur de soi.
Un grand merci Louis-Marie pour de nous faire découvrir le calendrier liturgique de l'année. Un peu de boogie, comme on dit. C'est une phrase horrible qu'on vient de prononcer là sur Radio Présence. Elton John avec I'm Still Standing. To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.
were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
h 47 sur Radio Présence, vous êtes toujours à l'écoute de Soif d'autre chose. Et pour cette dernière partie de l'émission, avec nous, nous recevons en plateau Corentin. Bonsoir Corentin.
Bonsoir.
Alors Corentin, tu es un jeune de la paroisse étudiante et hier tu es fait ta rentrée en catéchuménat, c'est bien ça?
C'est exact.
Alors déjà, félicitations pour cette démarche. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter hier comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti justement sur cette entrée en catéchuménat?
Ben, premièrement, pour moi, ça a été, ça y est, c'était officiellement mon entrée à l'église. Ça y est, l'église m'a officiellement ouvert les portes, vu qu'on a eu cette intégration auquel on a toqué à la porte de l'église, auquel vraiment il y a eu ce mouvement dans lequel les portes sont ouvertes. Et après, on a reçu des prières de tout le monde et puis.
Et alors, comment s'est passée en fait cette démarche? Pourquoi le catéchuménat?
Alors, en fait, moi je suis converti depuis bientôt 3 ans. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la foi suite à une perte de. J'ai perdu un membre de ma famille. Et en fait, à partir de cet acte-là, je me suis dit que voilà, il me manquait quelque chose. Après avoir découvert la foi, il me manquait quelque chose pour être pleinement près du Seigneur et je souhaitais me faire baptiser. Sauf que vu que j'étais à la campagne, etc., il n'y avait pas tant de jeunes que ça et donc du coup je m'intéressais, mais c'était pas autant que maintenant, auquel là maintenant je vais à la messe tous les jours, je vais à la messe tous les dimanches, etc. Et quand je suis arrivé à Toulouse il y a 2 ans, j'ai découvert la paroisse étudiante. Et on m'a dit, voilà, il y a plusieurs parcours à faire. Il y a le parcours alpha, il y a des préparations pour rentrer en catéchuménat. Donc, ça m'a énormément intéressé. Et vu que je commençais à m'intéresser à la foi, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et au fur et à mesure de ce parcours-là, ça m'a encore plus plongé dans la foi. Et c'est là où je me suis dit, voilà, j'ai besoin de me faire baptiser. Et puis, voilà, j'ai commencé mon catéchuménat il y a 1 an.
Donc voilà, donc t'as commencé ton catéchuménat il y a 1 an, donc tu es baptisé, c'est ça, à la prochaine nuit de Pâques en 2026. Vous allez être plus de 100 jeunes à être baptisés. Qu'attends-tu de ce moment, un moment particulier, une sensation particulière que tu recherches?
Ben, ma première sensation, déjà, même sans être baptisé pour l'instant, j'ai envie, j'ai hâte. Et il y a toujours ce stress parce que on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on est réellement prêt? Est-ce que on va faire les choses bien, etc. Et j'ai envie d'y aller doucement mais sûrement, mais toujours ayant autant de foi que j'en ai actuellement. Et ce que j'ai envie, c'est que même après être baptisé, je veux garder cette foi que j'ai en moi actuellement, et j'ai pas envie de perdre cette foi-là. Et donc je me dis qu'avec la prière, ça, tout peut fonctionner.
Et alors souvent on entend des personnes qui se plaignent du temps de catéchuménat qui est à peu près de 2 ans. Toi, qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes qui se posent la question justement de rentrer en catéchuménat et qui sont un peu freinés par ces 2 ans de formation?
Ben, je pense que personnellement 2 ans c'est des années ces 2 années sont des années un peu de discernement, de se remettre en question et de savoir si on est réellement prêt à vraiment se faire baptiser, à rentrer dans l'église, etc. Et c'est vrai que moi, durant ma première année, je me suis dit, punaise, j'ai cette foi en moi, j'ai envie vraiment de me faire baptiser. Et j'avais cette faim de vouloir me faire baptiser l'année dernière, sauf que je me suis dit, enfin, je suis converti il y a 2 ans, ça, enfin, c'est pas possible. Et même moi, intérieurement, j'aurais pas vécu une chose magnifique sans pour autant savoir plein de choses, parce que même là, actuellement, j'en découvre encore, j'apprends plusieurs choses, on témoigne de la foi de mes proches, etc., des amis que je rencontre. Et même après mon baptême, je vais apprendre encore plein de choses, parce qu'on en apprend tous les jours. Et en fait, voilà. Donc pour moi, personnellement, je pense que les 2 années sont importantes.
Ouais, tu l'as dit, tu apprends des choses là lors de ta formation et tu en apprendras quand tu seras baptisé. Toi, Louis-Marie, qui est chroniqueur dans cette émission, tu connais un peu ça parce que tu es néophyte, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai traversé le même chemin que Corentin, parce que j'ai été baptisé du coup cette année au bout de 2 années de catéchuménat. Et donc oui, je me retrouve très bien dans ses paroles et pour moi, c'est encore un souvenir vif de tout ça, de toutes ces expériences vécues et même de l'entrée en catéchuménat. Et le temps passe vite. Et c'est vrai que même après, en fait, on continue de s'instruire, on apprend beaucoup de choses, mais c'est très différent. Et c'est vrai que les 2 ans de formation sont parfois éprouvants parce qu'il faut être patient, il faut vraiment arriver à persévérer. Mais d'un autre côté, ça fait aussi qu'on arrive au moment du baptême, en fait, avec vraiment l'accomplissement de tout ce temps-là. Et malgré les épreuves, malgré toutes les difficultés, en fait, ça rend le moment encore plus beau et ça le charge encore plus de sens. Et donc, c'est encore beaucoup de choses très très belles à vivre, même après le baptême.
Un grand merci à vous deux, Corentin et Louis-Marie, pour ce petit témoignage. Corentin, on prie bien pour toi et tous nos auditeurs prient pour toi pour ton entrée en catéchuménat. Nous rendons grâce. Et d'ailleurs, pour rendre grâce, on va écouter Vivant de Cantillamo. On se retrouve juste après ça.
Vivant. Vivant, il est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il revient nous sauver. Marie de Magdala, ma sœur, en dit au ton vivant, il faisait ton costume, ton costume. Il a vaincu la mort, il revient nous.
de Cantiamo sur Radio Présence. Et alors, comme vous l'avez entendu dans l'introduction de l'émission, cette émission se fait aussi en partenariat avec la paroisse étudiante de Toulouse. Et nous accueillons d'ailleurs pour ça Philippe, qui est frateux à la frate Saint-Pierre. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors Philippe, aujourd'hui vous allez nous parler donc du festival, du Novus Festival qui s'est déroulé la semaine dernière, hein, qui s'est terminé, on va dire, mercredi dernier avec la messe de rentrée. Quels ont été les grands forts de ce Novus Festival ?
Alors pour le Novus Festival, pour le débuter, on a eu la mère de Carlo Acutis, de Saint Carlo Acutis, qui a témoigné à l'église de la paroisse étudiante. Et puis ensuite, on a aussi eu l'intervention du père Gaspard Craplet, qui est très connu en France. Et finalement, bien comme tu l'as mentionné, on a eu une grande messe de rentrée avec, on pense, 1500 personnes. Donc ça a été un grand succès.
Une messe de rentrée d'ailleurs qui a été diffusée sur les ondes de Radio Présence et à qui on remercie d'ailleurs la paroisse étudiante de toute sa collaboration pour ça. Et alors, cette semaine, quelles sont les nouvelles de la paroisse étudiante? Quelles sont les petites annonces?
Alors pour cette semaine, les petites annonces, déjà on a, la paroisse étudiante débute un cycle de conférences une fois par mois, et donc ces conférences se dérouleront aux trois clochers de la paroisse étudiante, donc il y en a un au Sacré-Cœur, proche de Padoie, une à Saint-Pierre, et finalement une à Saint-Marc, donc ça débute cette semaine, et le thème est la morale chrétienne, la voie royale du bonheur. Elle sera présentée par un dominicain, le frère Marie-Édouard. Et puis, les catéchumènes doivent s'y rendre, mais vous êtes tous, bien évidemment, invités à venir vous former.
Eh bien, un grand merci, Philippe, pour cette grande annonce de la paroisse étudiante. Mais avant de vous quitter, Mathéo et Cédric, vous aviez une petite annonce à faire, vous aussi.
Oui, voilà, juste pour terminer, hein, pour tous les éventuels passionnés de jeux vidéo qu'on aurait là, qui seraient à l'UT de Capitole, à l'université, bah, dites-moi, Cédric, où et quand on peut vous retrouver?
Alors, tout simplement, le club UT Capitole TSM Rétro se réunit chaque troisième lundi de chaque mois, donc chaque troisième lundi de chaque mois, de 12h30 à 13h30, donc les midis, à la bibliothèque universitaire de l'Arsenal, en salle formation numéro 2, c'est au rez-de-chaussée et à droite. Donc, chaque troisième lundi de chaque mois, le prochain thème sera l'éditeur Capcom, qui a produit notamment Street Fighter 2, les Mega Man, voilà, donc il y aura du fun aussi, hein, pour jouer, mais aussi peut-être réfléchir différemment à ce qu'est le jeu vidéo. Et c'est pas ouvert qu'aux étudiants du UT Capitole, tous les étudiants de tous les établissements toulousains sont les bienvenus au club, la participation elle est gratuite, et il n'y a pas de régularité aux séances à avoir, chacun est libre de venir quand il le souhaite.
Excellent, merci beaucoup, merci à Cédric, merci à tout le monde sur le plateau ce soir.
Et un grand merci à tous d'avoir participé à cette première de Soif d'autre chose, c'était notre première en direct, on se lance sur les ondes de Radio Présence. Vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine à 19h toujours en direct avec Louis-Marie, Mathéo et de nouveaux invités. Merci d'être fidèle à l'écoute de Radio Présence. Dans quelques instants, vous écouterez des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, puis la chronique des rues de Toulouse. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Radio Présence.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.